Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Stéphane Bodineau est chef du service de la propreté urbaine de la ville de Lausanne, en Suisse. Il est au bout du fil. Monsieur Bodineau, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Bodineau, j'ai vu un reportage qui m'a fasciné sur l'approche de votre ville en matière de propreté et notamment là, quelqu'un qui des gens qui jettent des mégots de cigarettes par terre, des gens qui crachent par terre, sont traqués et sanctionnés. Expliquez aux gens comment ça fonctionne et d'où vient cette philosophie.
Alors c'est vrai que depuis 2017, la ville de Lausanne a introduit ce qu'on appelle les amendes d'ordre et elle permet à une équipe d'agents d'amender entre autres les crachats, mais aussi le fait de jeter un mégot, un papier ou ne pas ramasser une crotte de chien par exemple.
Donc vous avez une escouade d'agents qui traque les gens qui commettent ces infractions-là. Vous avez combien d'agents?
Alors, une dizaine d'agents.
Et qui travaillent à temps plein, donc à toute heure du jour, disons, il y a 10 agents qui sont à Lausanne et qui sont aux aguets.
Oui, et puis souvent, on modifie les horaires, à savoir qu'ils peuvent aussi très bien travailler à 22 heures comme à 5 heures du matin.
Est-ce que c'est comme ça dans la plupart des grandes villes de Suisse?
Alors aujourd'hui, beaucoup de grandes villes ont introduit le système des amendes d'ordre comme Lausanne.
À Lausanne, vous avez instauré ce système-là il y a seulement quelques années. Est-ce que les citoyens étaient disciplinés avant l'arrivée de l'escouade propreté?
Alors c'est vrai que avant, donc cette équipe existait déjà. Elle faisait essentiellement de la sensibilisation. Mais on a remarqué qu'il y avait entre 3 et 5 % de la population qui ne jouait pas le jeu et qui n'était pas sensible à la communication. Donc c'est pour ça qu'on a introduit les amendes d'ordre pour ce 3 à 5 % de la population.
Les amendes sont de quel montant?
De 100 à 200 francs.
Donc de 150 $ à 300 $ canadiens. Et quand un agent de l'escouade propreté, M. Bodineau, approche un citoyen qui a commis une infraction, est-ce qu'il a les pouvoirs, cet agent-là, d'un agent de police?
Alors non, il a des pouvoirs limités. Alors il a quand même une formation qui est donnée par la police pour pouvoir faire face à des personnes ou à des situations agressives ou tendues. Par contre, il est assermenté, ça veut dire qu'il peut demander une carte d'identité et puis il peut infliger une amende. Mais ça s'arrête là.
Et si la personne refuse de s'identifier?
Alors là, il doit appeler la police.
Et là, la police vient sur place et le suspect peut être recherché s'il a fui dans l'intervalle.
Exactement.
Pourquoi est-ce que la Suisse prend au sérieux de cette façon-là les enjeux de propreté urbaine?
Parce que ça reste une question aussi d'image pour une ville qui est très importante, que ce soit en termes de salubrité, tout comme de sensation de sécurité aussi.
Il y a beaucoup de critiques ici à Montréal par rapport à la propreté. Notamment, par exemple, un des aspects de la critique, c'est que les poubelles municipales sont souvent pleines. À Lausanne, j'imagine que c'est une scène qu'on voit presque jamais, des poubelles publiques pleines.
Alors, pour pallier justement au problème de poubelles pleines, on installe des capteurs de remplissage dans les poubelles. Et comme ça, les équipes interviennent uniquement quand elles arrivent à environ 80-90% de remplissage.
Donc, si je comprends bien, là, il y a un capteur, il y a une jauge, et ça fait en sorte qu'une alarme sonne et la poubelle n'est jamais pleine. Donc, la poubelle municipale ne déborde jamais en public.
C'est exactement ça.
Vous savez que ce que vous me racontez, M. Bodineau, c'est presque de la science-fiction pour un Montréalais.
D'accord.
Expliquez aux gens qui nous écoutent, s'il vous plaît, comment la ville de Lausanne ramasse les déchets, les différents types de déchets, les journées réservées pour certains types de déchets?
La ville de Lausanne, on ramasse ce qu'on appelle en porte-à-porte quatre types de déchets, à savoir les ordures ménagères, le papier carton, le verre et les biodéchets. Les biodéchets, c'est les déchets verts et les aliments crus et cuits mélangés. Donc ça, c'est en porte-à-porte chaque semaine. Et puis après, il y a des éco-points, des déchetteries mobiles et des déchetteries fixes où la population peut amener le reste des déchets recyclables.
Pour être clair, une déchetterie, ça consiste en quoi? C'est un mot que je ne connais pas.
Alors, on a à Lausanne 5 déchetteries fixes. C'est un grand bâtiment dans lequel on accueille la population et on va reprendre tous les déchets recyclables. Et la population vient et elle a tous les contenants à disposition pour faire son tri. Elle est accompagnée de ce qu'on appelle des ambassadeurs de tri qui viennent aider. Et puis, on a les déchetteries mobiles. Là, c'est l'inverse. C'est nous qui allons à la rencontre de la population dans les quartiers avec un agenda annuel que la population reçoit dans la boîte aux lettres. Et puis là, on vient dans le quartier de nouveau avec une infrastructure mobile. Et la population, ben là, si elle n'a pas les moyens de se déplacer, ben elle peut descendre à la rencontre de la déchetterie mobile.
Et la déchetterie mobile va ramasser quel type de déchets?
On va prendre tant les encombrants, donc par exemple les vieux meubles, les grosses choses, que le PET, l'aluminium, les boîtes de conserve, les flaconnages, donc tout ce qui est bouteilles de shampoing, de produits pour laver, vraiment les piles, enfin tout ce qui est recyclable.
Devant une maison donnée, disons sur une rue en particulier, la déchetterie mobile va passer à quelle fréquence?
Elle passe deux fois par mois dans chaque quartier.
Et ce ne sont pas des éboueurs qui ramassent sur le bord du trottoir là, ces déchets-là. Les gens doivent descendre et déposer eux-mêmes les déchets recyclables dans la déchetterie mobile.
C'est ça, c'est parce que les dépôts sont interdits. Effectivement, ils doivent soit venir en déchetterie mobile, soit prendre leur voiture et aller en déchetterie fixe. Et puis autrement, ils ont aussi des éco-points au sein de la ville, plusieurs éco-points, qui reprend les textiles, les huiles, l'aluminium et le fer blanc.
Donc, des sacs de déchets éventrés par la météo, par les écureuils qui répandent des rebuts partout, ça n'existe pas à Lausanne?
Non, parce que le dépôt de sac est interdit.
Parlez-moi de la taxe aux déchets qui est gérée par la vente de sacs de déchets.
Oui, alors c'est juste depuis 2013, la ville de Lausanne a introduit ce qu'on appelle la taxe aux sacs. En fait, c'est pour sensibiliser la population à ce qu'elle consomme. C'est ce qu'on appelle une taxe pour le pollueur-payeur. Et donc, au lieu que ça soit dans l'impôt global, on a sorti ça de l'impôt et les gens achètent des sacs taxés. Et puis, comme ça, ben, ils sont sensibilisés à savoir moins ils trient, plus ils remplissent les sacs, plus ils doivent en acheter, plus c'est cher. Donc, ça incite la population à bien trier. Puis, plus elle trie, moins elle consomme de sacs taxés.
Donc, les gens de Lausanne peuvent mettre leurs déchets dans un seul type de sac.
C'est exactement ça.
Combien coûte un sac?
Alors, ça dépend la contenance, mais par exemple, un 35 litres, ça coûte 1,95 francs.
1,95 francs, donc environ 1,50 $ canadien. Donc, si quelqu'un prend un sac de déchets qui n'est pas un sac taxé, qu'est-ce qui se passe?
Alors, on a une équipe qui va prendre ce sac et faire ce qu'on appelle une autopsie, va l'ouvrir et essayer de retrouver une adresse ou quelque chose pour retrouver le responsable.
Et vous appelez ça une autopsie?
On appelle ça une autopsie, oui.
Est-ce que vous avez un taux de réussite chiffré dans les autopsies de sacs de déchets?
Oui, environ entre 70 et 80 %.
Donc, un excellent taux de succès pour retracer les personnes qui ont enfreint la loi.
Oui, et puis depuis 2013, donc depuis qu'on a lancé la taxe au sac, aujourd'hui, en l'occurrence, c'est des cas qui deviennent très rares, les sacs non taxés.
Et je vais vous poser une question et je pense que je connais la réponse, mais je vais vous l'entendre dire, M. Baudineau. Lausanne est une ville propre.
Alors, je dirais qu'elle est jamais assez propre. Il faut toujours se remettre en question, toujours essayer de faire mieux. Et puis, il arrive évidemment que les équipes de nettoyage passent dans une rue à 7h du matin et puis que malheureusement, à 7h10, quelqu'un jette un papier par terre. Et puis, ça donne l'impression que la rue est sale.
C'est absolument fascinant. C'est un choc culturel pour un Montréalais comme moi d'entendre votre description de la gestion des déchets à Lausanne. Merci d'avoir été avec nous, Stéphane Baudineau.
Merci beaucoup à vous pour l'invitation.
Au revoir. Monsieur Baudineau est chef du service de la propreté urbaine de la ville de Lausanne en Suisse. OK, c'était une entrevue pré-enregistrée de retour en direct en studio. Vous dire que les graffitis sont gérés de la façon suivante. Là, on prend des photos des graffitis à Lausanne et on attrape quelqu'un, on va sortir le scrapbook, si je peux dire, l'album de famille de graffitis, puis on va essayer d'identifier les graffitis qu'on n'avait pas réussi à relier à un graffiteur. Et évidemment, il y a des amendes, donc un système d'archives. Et pour l'enfouissement des déchets, c'est interdit en Suisse depuis le 1er janvier 2000. Donc, on y va là, avec l'incinération. Mais on vise aussi, là, vous l'avez entendu, la réduction à la source. Fascinant, c'est un choc culturel. On va y revenir. Mais je vous êtes tous partis à rire en studio quand vous avez entendu l'autopsie des sacs de déchets.
Autopsie et déchetterie, c'est quand même deux jolis mots aujourd'hui.
Et ouais. Je regarde la messagerie quand on parle de vidange, évidemment. Les gens là, ont une grande, grande frayeur que des règles comme ça s'appliquent ici. Mais en même temps...
Gérez vos vidanges.
Hey, moi, le nombre de vidanges que j'ai, à chaque fois, je me dis, si on était... Peut-être qu'un jour, il va falloir nous charger.
Ben,
parce que sinon, on va jeter comme des fous.
De notre vivant, je pense qu'on va voir.
On va le vivre.
Puis il y a des pays, là, je me souviens pas, je veux pas dire des faussetés. Là. Il y a des pays où je pense au Japon, mais on vérifiera, OK? Je pense qu'on pèse les déchets et les citoyens sont facturés au poids. Donc ça incite, disons, à limiter à la source. On va y revenir la semaine prochaine. On va essayer d'avoir là, quelqu'un de la ville de Montréal qui pourrait écouter cette entrevue-là avec M. Baudineau de Lausanne et réagir. Je pense qu'on n'est pas prêt pour ce choc culturel-là à Montréal et dans les environs.
Mais tu sais, une déchetterie, c'est un éco-centre. C'est juste leur est mieux organisé que le nôtre.
Exact. Oui. Puis pour connaître des gens dans le municipal, comme mon bon ami Maxime Pednaud-Jobin, l'ancien maire de Gatineau, quand tu touches aux déchets des gens, tu fais face à une révolution de type 1789 en France. Fais attention, ça peut réveiller des courants assez violents endormis. Quand tu touches au vidange, au recyclage, toutes ces affaires-là, là, les gens réagissent pas très, très bien. Fait que merci à notre ami François Arnois qui a retracé ce sympathique monsieur Baudineau en Suisse.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Juste souligner une affaire. Quand il fait moins 15, moins 20, on est dans des normales de saison. Quand il fait moins 35, quand on frôle les moins 40 avec le facteur éolien, quand à Chicoutimi, avec le facteur éolien, on est rendu à moins 50, dans ma business, l'actualité, ça s'appelle un fait nouveau. Et on en parle. Quand les avions décollent de Mirabel, on n'en parle pas. Quand ils se posent, on n'en parle pas.
Mirabel,
quand il y a des
parler,
accidents et rare. Que ça sort de l'ordinaire, on
journée.
En parle.
Vas-y, le.
Hey, mon chien est revenu.
Attends une seconde.
Attendez,
j'ai pas fini.
Mon chien est revenu à la maison aujourd'hui parce qu'il y avait trop froid dehors.
Là, on est dans la normale et on en parle. Donc voilà. Mais MC, dans ton temps, quand on jouait au hockey avec des bouses de vache sur une patinoire avec les patins de notre grand frère ou de notre grand-père,
la normale,
je comprends que c'était différent.
Nos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils nous mettaient un gros, gros foulard, une deuxième tuque, on mettait notre soupe, puis croyez-le que
j'ai l'impression de parler à Gilles Proulx.
Je n'ai jamais entendu mes parents dire « ne va pas jouer
Gilles,
dehors, il fait trop froid ».
Ce
c'est
non,
jamais arrivé.
Au contraire.
Parfait, parfait.
La parole est à Luc.
Luc, es-tu venu en bicyc à pédale aujourd'hui?
Non.
Pourquoi?
Il a cassé.
Comment ça, il a cassé?
La roue libre en arrière, elle a cassé.
Pourquoi?
Ça faisait trop froid?
Non, elle devait être vieille.
Moi, je pense qu'il faisait trop froid.
Elle était
due. Ton vélo, l'huile de ton vélo a pas survécu au grand froid.
C'est parce que il faut que tu l'huiles le vélo en hiver. Et
OK, s'il avait fait moins 5, est-ce que ton vélo a brisé?
Oui, non, il aurait pas cassé. Mais regarde,
bon, ben,
il faut que tu mettes de l'huile sur ton cadenas.
Tu vois?
Pat, il faut que tu mettes de l'huile sur le cadenas, sur la chaîne, sur les freins et sur la roue libre. J'ai oublié la roue libre.
Excusez-moi, c'est quoi la roue libre?
Ben, en arrière, les roues dentelées, là.
Ah, OK.
Il y a un cliquetis.
Le dérailleur?
Oui. Non, mais dans la roue libre, il y a un cliquetis. Okay. Le cliquetis, c'est un petit morceau de métal.
Dérailleur, c'est là où tu pédales, c'est ça?
Ouais, en tout cas. Toujours est-il que le cliquetis, il a pogné dans la glace. Et puis, quand ça va fondre, ben, dimanche, il va remarcher.
OK. À quel moment tu dis, OK, j'embarque pas sur le BC, c'est trop froid?
Jamais. Voyons donc. Il n'y a pas question. Les tempêtes de neige, je suis venu en vélo aussi. Je me rappelais de toi, tu avais dit, hey, j'espère que tu ne viendras pas en vélo, tempête de neige, tu es venu aux autos. Mais il n'y avait quasiment pas d'auto. Je peux te dire que les gens ont eu peur.
OK, attends, regarde, on va parler de vélo. Regarde. L'hiver passé, oui, non, il y a deux hivers. J'avais hivernisé mon bicycle à pédale, puis je me promenais en hiver. J'ai aimé ça. Okay? Là, cette année, j'ai été négligent, puis je ne l'ai pas fait. Mais un reproche, OK? Donner un exemple. Sur Laurier, là,
il y a
des bandes cyclables. Avec les bandes neige, là, il n'y en a pas de place.
Ouais.
Il n'y en a pas. Tu veux rouler en vélo? Moi, je suis pour le vélo d'hiver. Mais de la même façon que des fois, les voitures sortent pas ou font ben attention, tu devrais faire attention en vélo. L'autre affaire, les cyclistes que j'aime d'amour, mettez des lumières. Hier, j'ai failli faire un changement de voie parce que c'était il n'y avait aucun problème dans mes rétroviseurs jusqu'à ce que du coin, du bout de ma vision, j'aperçoive quelque chose qui bougeait. C'est un cycliste. Si j'avais changé de voie, j'aurais coupé la voie. Il n'y a pas de lumière.
Ouais.
Mettez vos lumières.
Au moins. Patrick, c'est un autre débat, ça. C'est pas ça qu'on parlait, là. On parlait du fret.
Hey. C'est
en hiver.
MC.
C'est parce que t'as peur de Luc.
MC.
T'as peur qu'il soit d'accord avec moi.
MC. Cette émission n'est pas une démocratie participative.
Non, c'est une monarchie.
C'est une dictature.
Bon.
Je décide des sujets.
Ben, Paul Pot l'agacé. Laisse la parole à Luc un peu. Tu t'expliques qu'il fait pas si froid.
Luc. Est-ce qu'on est un petit peu douillet face à ce moins 25, ce moins 30?
Hey, écoute, tu te rappelles qu'à Sept-Îles, puis à la Manique, quand ils ont construit ça, là, c'est pas aujourd'hui qu'on le construit.
À la Manicouagan.
Nous, on construirait juste.
On le construira.
En été.
On a construit la romaine.
Regarde.
Hey, vous avez vraiment l'air de deux grands-pères.
Non, mais à Sept-Îles, la
mienne, de l'époque.
Laranor. À l'époque où c'était Mulroney qui rendait la place, là.
Oui.
Ben, il arrêtait pas les camions en hiver.
Ben, on n'arrête pas plus ça, là.
Mais oui, aujourd'hui, s'il fait plus moins 3.
Oh,
comme.
Hey, les gars,
chaud.
Là.
Hey, il fait moins 5. Ah,
j'ai l'impression d'écouter. J'ai l'impression d'écouter CJMS en 87.
Il a raison!
Allumez-vous des clopes. Let's go. Commencez à fumer. Faites des jokes grâce à ces filles.
T'es mon Dieu.
Les mononcles.
Tu veux retourner au Journal de Montréal?
OK.
Je suis sûr que. Écoute, l'autre fois, j'ai dit à mon émission tantôt, là, quand je suis sorti hier de studio, puis j'ai marché, je suis passé dans le petit local, là, il y a à peu près comme 5 télévisions, les 5 parlaient du temps froid.
Ben oui,
les 5 maudites télévisions étaient toutes sur « Oh mon Dieu, il va faire froid! Il va faire froid une journée! Ah, il va faire froid une journée! » Voyons donc.
Catherine, qu'est-ce qui s'est passé avec ton chien?
Charlotte, mon Dieu, on l'a amenée faire ses besoins d'or. Habituellement, elle adore l'hiver.
Elle va dans la.
Elle gambade, elle est heureuse. Et là, elle a fait ses besoins, mais elle a voulu revenir en tirant sur la laisse. Et moi, mes cils ont collé ensemble aujourd'hui.
Ça,
c'est des choses qui n'arrivent pas habituellement. Là. Tes yeux sont pas censés se fermer et être collés ensemble parce qu'il fait trop froid.
T'es la deuxième personne de type femme à me dire que ses cils ont collé aujourd'hui grâce au froid.
Le power steering de la voiture de mon chum a brisé aujourd'hui parce qu'il faisait trop froid. Il est allé au garage, puis on dit « Attends, à dimanche, ça va revenir. »
Ah, hein? C'est juste ça, l'huile était gelée.
Oui.
C'est l'huile du power steering.
Exactement.
Bon. OK.
Ça arrive, ça.
Oui, mais c'est de l'huile californienne.
Oh, come on. Hey, les gars, là. OK, mais si tu avais ton vélo aujourd'hui, tu roulerais?
Ben oui. Ben, je suis parti en bicycle un matin. Des bonnes bottes.
Ah, il a cassé ici?
Non, il a cassé sur le chemin.
Fait que t'as fait demi-tour?
Non, je l'ai attaché sur un poteau, j'ai couru jusqu'au métro.
Il va être encore là, tu penses?
Ah oui. Non,
quel poteau?
Ça, c'était très intéressant. Ouais, tu sais que les gens ne volent pas de vélo en hiver. Hein?
Sérieux, il y a moins de vols de vélo en hiver?
Ben non, ça ne me tente pas de faire du bicycle en hiver, ils ne volent pas. Non. Puis en plus, ça ne se vend pas, fait qu'ils ne volent pas. Mm. Mais moi, un jour, mon cadenas gèle. Fait que là, je ne suis pas capable d'attacher mon bicycle. Fait que là, je le laisse pas attaché en me disant, qu'est-ce que tu veux? Faut que je rentre, j'ai un meeting, je rentre. Le bicycle est encore là.
Tu étais surpris?
Ah, vois-tu? Je vais essayer demain aussi. Fait que le lendemain, je ne l'ai pas attaché. Puis t'es encore là. Le lendemain, je ne l'ai pas attaché, t'es encore là. 30 jours. 30 jours de suite.
Puis il n'a jamais été volé.
Jamais été volé. Le 31e jour, il a disparu.
Quand dans l'hiver?
J'ai oublié qu'il commence à faire un peu plus chaud. Boum, il a disparu.
Ça devrait être l'hiver tout le temps.
Ouais.
MC, tu vas faire du vélo d'hiver? Ça te rendrait plus zen.
Ben, il n'y aurait pas de danger qu'il y ait du froid avec du vent parce que je ne le vois pas assez vite. Mais regarde, je vais terminer avec une phrase. Je vais faire mon boucard d'Iouf. Mon grand-père disait. Mon grand-père disait, l'été, à un moment donné, tu ne peux plus l'enlever. L'hiver, tu peux toujours en rajouter.
Ah, ouais, c'est un sage.
C'est beau. Hein?
Est-ce que vous savez la chance que
MC,
vous avez?
MC, il nous fait la leçon là-dessus. L'autre jour, il était quasiment avec des petits souliers bateau.
Ben oui.
Dans la pleine neige.
Ben oui.
Oui, il se promène en running shoes.
Chiolais-tu? Est-ce que je chiolais? Non.
On a toujours eu au Québec de ça, des gars qui, tu sais, avec le manteau des loisirs, là.
Oui.
Soit le loisir Saint-Jean-Garnier, ben, avec trois boutons pression, pas de foulard, pas de tuque, pas de gants. Hey, ça va!
En tout cas, Luc, si c'est géré comme des équipes de hockey ici, je suis prêt à ce que je sois échangé contre Meeker et des considérations futures. Puis je vais aller dans ton émission parce que Patrick, aujourd'hui, je le trouve un petit peu stalinien. C'est comme le froid.
Non, moi, je te dis, je le trouve dur aussi. Si tu veux venir dans mon émission, t'es bienvenu.
Dans cette émission, je suis un dictateur bienveillant. Ouais. C'est-à-dire que chacun peut parler, etc. Ouais. Mais à la fin, il y a des goulags. Il y a des goulags. Luc, je m'entendais plus bien avec lui. Je l'ai envoyé le midi.
Ben, bravo.
Là, j'ai dit, tu sais, nage, débrouille-toi.
Puis, nomme-moi en un autre à part toi, un dictateur bienveillant.
Pol Pot.
C'est le pire, je pense. Il n'a pas gros.
Enfin, bon. Il y en a eu des pires que moi dans l'histoire de la radio. On va se limiter à dire ça.
Je pense que t'allais dire Trudeau ou Legault.
Luc, donc, en fin de semaine, tu vas aller jouer dehors?
Ben oui, c'est sûr.
OK. Avec moins une sucre, mets-tu une sucre?
Ah oui, je mets une sucre.
Okay.
Ah, j'en avais deux à matin.
Ah oui?
J'avais mis ma cagoule qui monte jusqu'en haut du nez.
Mais toujours pas de casque, hein? Toujours pas de casque.
Ben, deux tucs, à voir si t'as besoin d'un casque quand t'as deux tucs.
Est-ce que tu vas aller danser à Igloo Fest ce soir?
T'sais,
non,
Luc.
Non.
T'sais, Luc.
C'est-tu Igloo Fest ou Igloo Fest?
Igloo Fest.
Ah, ça s'appellerait Igloo Fest, il y aurait du monde en masse.
Donc, Luc!
Dans notre métier, là, t'sais, on a besoin d'une certaine vivacité cérébrale, tu comprends? Ouais. Il faut rebondir sur ce que les invités disent. Il faut qu'on mette de l'ordre dans nos idées rapidement pour présenter le segment qui s'en vient, etc. Si tu as un traumatisme crânien parce que tu n'as pas mis ton casque en baissé à pédale, je te l'annonce, ça va être un peu plus dur. J'espère que tu es assuré.
Je l'avoue. En plus, je ne suis pas assuré. Je l'avoue, mais j'arrive pas à me corriger.
Okay.
En plus, le casque, essaye donc, on va mettre un casque par-dessus deux tucs, une capuche.
Puis cette crinière-là.
Puis la crinière.
Qui est abondante,
qui protège en tout temps. Là.
Oui, non, c'est
contre les intempéries,
c'est vraiment
contre les chocs même.
Luc, son charisme, là, il est au-dessus de la tête. Là.
Okay. Hey. Luc, bonne route.
Merci.
Salutations à ton vélo.
Merci de m'avoir invité.
Et merci pour l'appui.
La vieille gang.
Tu t'ennuies, hein, Denis?
Ouais. Oui. Bah, sérieux. Sérieux, je m'ennuie pour vrai.
Ouais.
Moi, je regarde des fois quand je pars le soir, je vous vois qu'il y a eu du fun à travers la ville. Je resterai même nos petites 3 heures.
Écoute, c'est noté.
Tu peux t'inviter, hein? Ouvre la porte du studio, assieds-toi, mais on va pas te payer.
C'est ça, nos boss disent pas plus cher.
Salut. Demain, c'est la Journée mondiale contre le cancer au Québec. On le sait, on a un système de santé qui est exceptionnel pour traiter les gens qui en souffrent. Ça, pour traiter les gens, ça va. Mais pour ce qui est de la détection, le dépistage, le diagnostic, le chemin peut parfois être plus périlleux. Sans oublier que depuis la pandémie, les délais de chirurgie se sont grandement allongés. Pour en parler, deux invités en studio. Yves Dubé, qui est survivant du cancer du côlon, et David Reynaud, qui est gestionnaire à la défense de l'intérêt public à la Société canadienne du cancer. Messieurs, bonjour.
Bonjour.
On va commencer avec vous, Monsieur Dubé. Vous êtes survivant d'un cancer du côlon. Expliquez-nous comment ça n'a pas été simple de le dépister.
En fait, le premier constat a été assez rapide, le petit fit test là, qui a été recommandé par mon médecin.
C'est quoi un fit test?
Un fit test, c'est recherche de sang occulte dans les selles.
D'accord.
Donc, une petite cuillère qu'on sauce dans nos selles le matin, bien simple, on envoie ça au labo, puis ça détermine s'il détecte du sang dans les selles. C'est la première étape. Ça peut être un petit virus, comme ça peut être ultimement une tumeur.
OK.
Donc, dans mon cas, c'était une tumeur.
Mais quand on dit sang occulte, c'est-à-dire que on ne le voit pas à l'œil nu?
On le voit pas principalement. On pourrait le voir, mais dans mon cas, on le voyait pas. C'était tout à fait normal. Consistance, couleur, tout à fait normal.
Ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas de saignement
tout à fait.
Dans l'intestin.
Exact. Donc, il faut aller plus loin. Quand il y a un premier résultat positif, il faut aller plus loin et vérifier.
Donc, là, il y a eu une coloscopie, j'imagine?
Exactement, coloscopie.
Et qu'est-ce qu'a révélé la coloscopie?
Qu'il y avait une tumeur, effectivement, une bonne tumeur par ailleurs.
De stade?
Stade 2.
OK.
À la limite de passer stade 3, parce qu'elle avait déjà transpercé le côlon.
OK.
Donc, la tumeur était rendue à l'étape de se répandre.
Et vous n'aviez pas de douleur?
Aucune douleur, aucun symptôme. Je dirais même que j'étais en pleine forme. Je faisais des travaux dans ma cour cet été-là.
OK. Tout ça, est-ce que vous avez fait ça au public ou au privé?
J'ai fait, la coloscopie, je l'ai fait au privé parce que les résultats, lorsque j'ai eu le résultat du fit test,
ouais,
ma formule sanguine était super belle, puis j'avais pas d'antécédent familial. Donc, le docteur s'attendait à ce qu'il n'y ait pas de problème. Donc, c'était 4 à 6 mois pour avoir un rendez-vous.
OK, mais là, si vous aviez attendu les 4 à 6 mois pour aller au public, je veux dire, la tumeur aurait grossi.
Aurait probablement été rendue à l'étape. Quand ils l'ont retirée, elle était rendue à l'étape de se répandre. Donc, 4 à 6 mois, elle se serait probablement répandue.
OK, donc vous avez décidé d'errer du côté de la prudence. Vous êtes allé au privé?
Oui, c'est une décision tout à fait personnelle.
Pour la coloscopie?
Pour la coloscopie.
C'est une décision que vous ne regrettez pas, là?
Meilleur investissement de ma vie.
Combien ça a coûté?
750 $.
C'est un 700 bien investi.
700 bien investi.
OK, je vais passer maintenant à David Reynaud, qui est de la Société canadienne du cancer. L'histoire de M. Dubé, ça vous dit quoi en termes d'attente d'accès?
Ben, ce que ça nous dit, c'est surtout ce qu'on voulait souligner en cette journée mondiale contre le cancer, c'est le fait que la pandémie, notamment, a eu des effets sur l'accès là, au dépistage du cancer. Donc, l'exemple de M. Dubé, c'est avant la pandémie, mais ces délais d'accès ont été, dans le fond, agrandis là, à cause de la pandémie de la COVID-19. Mais c'est sûr que le dépistage du cancer, ça reste vraiment une activité qui devrait être priorisée, surtout dans le cas du cancer du côlon. Il n'y a pas vraiment de symptômes apparents avant qu'on parle d'un cancer en stade avancé. Donc nous, c'est pour ça qu'on veut profiter de cette journée mondiale pour demander aux gens de nous soutenir quand on va au gouvernement, là, d'aller leur demander d'améliorer l'accès et les services en cancérologie. Et c'est justement des appels à l'action qu'on a dans cette journée mondiale contre le cancer.
En termes de lutte au cancer, M. Oui. Reynaud, là, quand on se compare aux autres provinces canadiennes, disons les grandes provinces, l'Ontario, la Colombie-Britannique, comment on se compare?
Ben, c'est assez large comme question. Si on peut se concentrer sur la partie, admettons, de la pandémie de la COVID-19, toutes les provinces ont eu des impacts, là, à peu près similaires. Des impacts qui ont touché beaucoup plus, admettons, les services de dépistage. Donc, par exemple, l'accès aux tests RSOSI. Dans la première année de la pandémie, il y a eu 160 000 tests en moins, donc une diminution de 26% des tests RSOSI. C'est pas qu'il y a moins de gens qui sont atteints par le cancer, mais...
Moins de gens qui sont dépistés.
C'est moins de gens qui sont dépistés. Donc ça, c'est des enjeux que vivent plusieurs autres provinces canadiennes. Mais par exemple, au niveau du cancer colorectal, on est la seule province au Canada qui n'a pas de programme de dépistage organisé. Donc un programme de dépistage organisé, c'est un peu comme le cancer du sein. Donc quand on recevrait une prescription pour aller chercher le test RSOSI, le fit test que M. Dubé a passé, parce qu'en ce moment, il faut une prescription d'un médecin ou d'une infirmière praticienne, ce qui retarde l'accès en fait à ce test de dépistage-là.
On me dit qu'en Ontario, c'est mieux organisé.
Oui, c'est ça. Dans toutes les autres provinces canadiennes, vous recevez une lettre qui permet d'avoir accès à ce test de dépistage-là et donc de vous procurer un test RSOSI qui se fait à la maison, qui est simple, alors qu'au Québec, il faut avoir accès à un médecin de famille, par exemple, et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas.
Qu'est-ce qui explique qu'au Québec, c'est plus compliqué qu'en Ontario pour avoir ce système-là?
Ben, c'est difficile d'expliquer. On nous parle d'enjeux des fois techniques. Donc, c'est sûr que nous, ça fait des années qu'on met cet enjeu-là de l'avant, avec notamment les différents partis politiques qui ont gouverné dans les dernières années. Et puis, on attend toujours la mise en place.
Là, vous demandez aux Québécois de faire pression sur le gouvernement. Comment? De quelle façon?
Ben, on a lancé une initiative qui s'appelle Prompt Rétablissement. Donc, les gens peuvent y accéder sur notre site internet cancer.ca/prompt-rétablissement sans accent. Et ça permet d'envoyer une carte de prompt rétablissement à leurs élus pour le système de santé et de dire pourquoi pour eux c'est important de prioriser les soins et les services contre le cancer et de demander un changement, qu'on priorise ça dans le budget, notamment qui arrive bientôt, ouais, par exemple.
Parfait. Je reviens à vous, M. Dubé. Vous êtes un survivant du cancer du côlon. C'est un cancer qu'on décrit comme un cancer silencieux, très meurtrier aussi. Vous en êtes la preuve, sans mauvais jeu de mots, vivante, là, parce qu'à stade 2, si vous n'étiez pas allé au privé pour avoir votre coloscopie, ben, vous ne seriez peut-être pas ici pour en parler. On ne va pas rentrer dans les détails. Moi, j'en ai fait des coloscopies. J'ai été un apôtre de ça. Je le dis aux gens, je le dis aux gars surtout. N'ayez pas peur d'y aller. Racontez comment c'est une procédure tout à fait normale qui peut nous sauver la vie.
Ah ben en fait, c'est vraiment très, très simple. Je dirais même la procédure en soi, c'est même très facile, je trouve. On se couche puis sur une table, puis le médecin, il rentre la caméra, puis il fait ce qu'il veut. Ce qui est déplaisant, c'est la préparation un petit peu. La préparation, oui. C'est la veille, il faut boire un liquide qui nous fait faire un grand ménage.
Oui.
Ça, c'est déplaisant. C'est pas dur, c'est déplaisant.
C'est ça.
Mais l'examen en soi, c'est vraiment super facile. Moi,
C'est pas douloureux.
Pas du tout douloureux. Je m'endors même sur la table.
Bienvenue dans le club.
C'est ça. Donc, il n'y a vraiment rien, il n'y a pas d'empêchement, c'est pas douloureux, c'est pas dangereux, ça vaut vraiment la peine.
Puis vous en êtes la preuve, je le répète encore une fois, la preuve vivante, ça en vaut la peine. Vous, ouais. Ça vous a sauvé la vie. Si vous étiez dit, je ne veux pas faire cette procédure-là, parce qu'il y a quand même, vous l'avez dit avec beaucoup de, avec un euphémisme, là, avec beaucoup d'élégance, il y a quand même un tabou à aller se faire une coloscopie, mais c'est à peu près la seule façon de voir s'il n'y a pas un problème dans les boyaux.
C'est la façon.
Et vous aviez quel âge quand vous
50
avez...
ans, c'est
vous aviez 50 ans?
Mon cadeau de 50 ans, oui.
Ah, c'est jeune.
Oui.
Aucun antécédent?
Aucun antécédent.
Hey, mon Dieu.
Puis, c'est ça. Donc, on jokait avec mon médecin quand il a dit, parce qu'à cause du 50 ans, puis il a tout simplement dit, vigilance d'esprit de mon médecin, il a dit, 50 ans, on vérifie le côlon. Moi, je le voyais une fois par année. On l'a ajouté à la liste, c'était simple. Puis, je suis parti de là. J'ai pas de problème, on va le rajouter, je l'ai fait.
Puis, à l'époque, vous aviez un collègue de travail, je pense, qui n'a pas eu la même chance.
Tout à fait. En fait, la différence, lui, c'est la même année que moi, mais lui, il avait 51 ans au lieu de 50. Puis, quand il a eu son diagnostic, il était à stade 4. Il est décédé 14 mois plus tard.
L'importance d'un dépistage précoce pour pouvoir intervenir. Parfait. Merci à vous deux. Merci. Je pense que c'est important d'en parler. Demain, c'est la journée mondiale du cancer. Les gens qui voudraient faire pression sur le gouvernement, allez sur cancer.ca et l'initiative est là en évidence. C'était Yves Dubé et David Reynaud de la Société canadienne du cancer. Merci, messieurs.
Merci. Merci.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
16h19, un ballon espion flotte au-dessus des États-Unis et aussi flotté sur l'ouest du Canada. Les Américains sont certains que ce ballon espion provient de la Chine. Les États-Unis sont tellement fâchés qu'ils ont annulé la visite en Chine du secrétaire d'État Anthony Blinken qui était prévue pour dimanche et lundi. De son côté, Ottawa a convoqué l'ambassadeur chinois pour des explications. Guy Saint-Jacques est l'ex-ambassadeur du Canada en Chine. Il est au bout du fil. Monsieur Saint-Jacques, bonjour.
Bonjour, M. Lagacé.
Aviez-vous déjà entendu parler de l'expression « ballon espion » avant cette semaine?
Oui, puis j'avais entendu parler aussi de « ballon d'essai » dans ce cas-ci. Il y a quelque chose d'un peu étrange parce que les Chinois semblent sincères dans leur explication qu'il s'agit d'un ballon météorologique là, qui a dévié de sa trajectoire, mais si c'est le cas... Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas avisé les États-Unis plutôt et le Canada? Parce que là, c'est clair qu'ils devaient savoir que le ballon était pour passer au-dessus de l'Alaska, ensuite au-dessus de la Colombie-Britannique, le sud de l'Alberta avant d'entrer au Montana. Puis par hasard, ben, ils se retrouvent au-dessus d'un site stratégique, un des trois sites aux États-Unis où il y a une concentration de missiles balistiques. C'est qu'ils vont avoir des comptes à rendre, je pense.
C'est intéressant ce que vous dites. Vous dites que les Chinois semblent sincères dans leurs explications, à savoir que c'est un ballon, une sorte de machine météorologique. Est-ce que je sais que vous êtes très suspicieux face au régime chinois. Les croyez-vous?
Mais dans ce cas-ci, oui, c'est ça. Je pense que oui, parce que là, sinon, c'est trop gros. C'est une provocation extraordinaire. Puis, ils savaient que c'est un ballon qui est facilement détectable, même à l'œil nu, comme on a vu. Et puis, surtout, ça contrevient à un des principes sacro-saints de leur politique, le respect de la souveraineté nationale. C'est ce que le département d'État américain a tout de suite dit, écoutez, vous violez notre espace aérien, ça va à l'encontre des lois internationales, puis je me demande jusqu'à un certain point si les Américains font pas exprès pour faire durer ça, pour pouvoir utiliser ça justement plus tard dans leur discussion, mais aussi je pense que ce qu'ils vont vouloir faire à un moment donné, c'est de ramener le ballon au sol, puis d'examiner tout l'équipement qui est là pour s'assurer qu'effectivement c'était bel et bien un ballon météorologique.
Puis on sait que ça existe là, des ballons, là, des sondes comme ça là, qui permettent de prévoir la météo. Mais là où c'est typiquement chinois, c'est qu'ils l'ont pas dit aux Américains que ça s'en venait.
C'est ça, puis. Si on regarde ça, à mon avis, c'est clair qu'il y a quelqu'un qui a été fautif du côté chinois puis qui va se faire taper sur les doigts parce que il devait savoir que c'était pour créer un incident diplomatique. Puis tout ça arrive à un moment très délicat parce qu'on a vu que dans les derniers mois, si le président chinois Xi Jinping fait face à une crise économique, la situation est pas bonne pour lui. Il a commencé à mettre de l'eau dans son vin. Puis c'était clair quand il a rencontré le président Biden en novembre à Bali. Là, il devait compter sur la visite du secrétaire d'État Blinken pour relancer le dialogue. Puis c'est comme si quelqu'un dans son entourage voulait créer un incident pour justement retarder tout ça. C'est que ça peut sentir un peu le sabotage aussi là.
Et là, Anthony Blinken, qui est le secrétaire d'État des États-Unis, le ministre des Affaires étrangères, au fond, a annulé sa visite prévue en Chine dimanche et lundi. Est-ce que c'est juste de l'esbrouffe ou les Américains sont vraiment, vraiment fâchés, irrités?
Ben, je pense qu'ils sont irrités. Puis en plus, Blinken ne voulait pas que ça domine le discours. Puis dans tout ça aussi... il faut se rappeler que la Chambre des représentants est maintenant dominée par les Républicains. Ils ont créé un nouveau comité se préoccuper des questions chinoises. L'orateur de la Chambre, M. McCarthy, a dit qu'il va vouloir aller à Taïwan. C'est qu'ils savent qu'il va y avoir beaucoup de pression de la part des Républicains. Puis il faut dire que le président Biden a une attitude beaucoup plus dure envers la Chine que ne l'avait... l'ancien président Trump, mais en même temps, c'est ça, il y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Puis, mais ceci étant dit, c'est bien dommage que la rencontre n'ait pas lieu, puis j'espère que ça va être reprogrammé dans quelques semaines, mais il va falloir attendre là.
OK, je veux qu'on parle de Taïwan un peu, Guy Saint-Jacques. Vous l'avez évoqué, le numéro 3 du gouvernement américain, Kevin McCarthy, qui prévoit d'aller à Taïwan. D'abord, expliquez c'est quoi la difficile relation entre Taïwan, qui est un allié américain, mais qui est dans la sphère d'influence chinoise, et la Chine.
Bien, c'est clair que pour le président Xi Jinping, une grande partie de son héritage politique, c'est le fait qu'il veut que Taïwan revienne à la Chine, que ça fasse partie de la Chine. Parce que c'est un vieux contentieux, même si on peut dire que la Chine a contrôlé Taïwan finalement seulement quelques années. Là. Avant ça, c'était une colonie japonaise. Puis, mais de toute façon, c'est clair qu'il veut mettre la main là-dessus. Puis du côté américain, jusqu'à récemment, il maintenait une ambiguïté stratégique en disant, écoutez, on a une loi qui date de 1959 qui dit que si Taïwan est attaqué, on doit venir en aide à Taïwan.
OK, ça, c'est une loi. OK.
Oui, c'est une loi, mais ça ne dit pas que nécessairement il faut que les États-Unis envoient des troupes sur le terrain. Ça peut être simplement de la fourniture d'équipement. Puis il faut. Ce que les Chinois reprochent aux Américains, c'est qu'ils se sont éloignés au cours des dernières années de cette ambiguïté, parce qu'on a entendu aussi M. Biden à quelques reprises dire assez clairement, si la Chine attaque Taïwan, c'est clair qu'on va venir à leur défense, qu'on va vouloir les aider. Et puis, ça amène beaucoup plus de pression. Puis, dans tout ça aussi, il faut pas nécessairement croire ce que disent les généraux américains, parce que la semaine passée, le général qui est responsable de l'armée de l'air américaine avait dit il faut se préparer, il pourrait avoir un conflit en 2025. De son côté, le président chinois Xi Jinping a dit à ses généraux, je veux que vous soyez prêts pour mener une guerre en 2027. Mais à un moment donné, il faut essayer de désamorcer la situation, puis que la diplomatie entre en jeu pour dire à tout le monde, écoutez, il faut se calmer. Taïwan ne va pas devenir indépendant. Vous, la Chine, si vous attaquez, vous allez subir des sanctions économiques extraordinaires. Ça sera pas beau sur le plan militaire. Il y aura pas, on va subir des pertes. Vous allez subir des pertes. Ça va affecter votre économie de façon extraordinaire. Le mieux, c'est de maintenir le statu quo. Mais le danger actuellement à Washington, c'est que les militaires ont une voix très puissante. Mm. Et puis là, on peut se retrouver dans une situation où Xi Jinping se sent coincé, surtout si l'économie chinoise continue d'aller mal, puis qu'il a peur que la survie du Parti communiste chinois soit en jeu.
Mais j'ai lu une analyse intéressante cette semaine, M. Saint-Jacques, selon laquelle le président chinois regarde ce qui se passe en Ukraine, regarde comment les Russes ont été isolés politiquement, diplomatiquement, économiquement, et se dit, si on attaque, nous, Taïwan, on risque de subir le même sort.
Bien, c'est clair, puis ils ont appris beaucoup de leçons, mais en même temps aussi, ils ont appris que pour qu'une opération réussisse, il faudrait que ce soit une opération éclair avec une pluie de missiles pour annihiler toutes les défenses de l'île. Mais avant de faire ça, moi, je pense qu'ils vont continuer avec leur tactique de désinformation puis de déstabilisation, parce qu'ils utilisent beaucoup les médias sociaux. Ils vont attendre le résultat des prochaines élections à Taïwan qui vont avoir lieu en janvier de l'année prochaine, en espérant que le Kuomintang soit élu pour remplacer le parti de Mme Tsai, qui est plus indépendantiste. Puis dans le passé, le KMT avait des bonnes relations. C'est que ça aiderait à faire baisser la pression. Mais je pense aussi qu'ils vont attendre de voir le résultat des élections américaines en novembre de l'an prochain. Puis si jamais c'était quelqu'un comme Trump qui revenait, ben là, peut-être que si se dirait, bon, on peut procéder. Mais aussi, c'est beaucoup plus difficile de venir à l'aide de Taïwan parce que c'est une île. Dans le cas de l'Ukraine, son voisin, c'est un pays de l'OTAN. On peut emmener beaucoup d'équipements par la route ou par rail. Si les Chinois faisaient un blocus autour de l'île...
Ça tiendrait pas longtemps, là.
Ça serait très difficile pour les Américains de réapprovisionner les forces taïwanaises.
Toujours plaisant de vous parler, Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine. On va suivre la saga du ballon espion. Merci d'avoir été avec nous.
Merci, bonne fin de journée.
À la prochaine.
Patrick Lagacé, en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.